l'heure de l'After Tour de France.
RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous en direct de Valence ce soir au terme de la 17e étape du Tour de France. C'était une étape de transition avant l'entrée dans les Alpes demain pour le plat de résistance de ce Tour 2025. C'est sans doute demain et après-demain que tout va se jouer, notamment le maillot jaune, mais également le maillot à poil, le maillot blanc. Bref, il va y avoir une grande bagarre et on en parlera dans quelques minutes en fin d'émission avec notamment ce col de la Lauze au programme. En attendant aujourd'hui, entre Bolène et Valence, eh bien la pluie avait rendez-vous avec le peloton, eh bien, finalement, on a décidé d'achever cette étape, je vais y arriver, par un sprint massif. Deux grands favoris, Tim Merlier, le Belge de la formation Soudal Quickstep, vainqueur déjà de deux étapes sur les routes de ce tour, face à Jonathan Milan, porteur du maillot vert, et qui a été battu à deux reprises par Merlier, et celui qui l'a emporté, c'est Jonathan Milan. On va y revenir. Toute l'équipe de l'After Tour est à mes côtés, Pierre-Yves Leroux, Jérôme Coppel.
Bonsoir, chef.
Bonsoir, messieurs.
Salut, Christophe.
Vous êtes au sec, là, un petit peu?
On est au sec. On est très bien.
Nos reporters travaillent sont dans de un peu moins secs.
Ah, ça sent le chien mouillé dans la salle de rédaction. Hein. Ça, c'est vrai que.
Ah, oui, parce que la pluie s'est mêlée de la partie aujourd'hui, notamment en toute fin d'étape et surtout juste après l'arrivée de l'étape. Et d'ailleurs, les coureurs se sont assez vite carapatés parce qu'ils savent que demain, il y aura ce rendez-vous avec le col de la Lauze. C'était une étape dangereuse, évidemment. Dès que la pluie se mêle de la partie, il y a de la gamelle. On en parlera tout à l'heure. La gamelle, justement, intervenue à quelques mètres de l'arrivée, qui a donc déstabilisé Tim Merlier, qui n'a pas chuté, qui a évité la gamelle de justesse, mais qui n'a pas pu ensuite sprinter, laissant donc la victoire à Jonathan Milan. Vous l'avez vécu tout à l'heure dans l'Intégral Tour.
Précédemment dans l'Intégral Tour sur RMC.
Bonjour à tous, c'est la 17e étape de cette grande boucle aujourd'hui. Il fait un temps de cochon aujourd'hui, ici sur la ligne d'arrivée à Valence. Un gros orage, une grosse averse qui vient de tomber et ça ne va pas s'arranger.
Ce sont les Lidl Trek, justement, qui roulent en compagnie des Soudal à l'avant du peloton à 2 minutes 10 derrière les hommes échappés. Quatre hommes, Vincenzo Albanese, il est accompagné de Jonas Abrahamsen pour Uno X. Et puis deux coureurs français, Quentin Paché pour la Groupama FDJ et Mathieu Burgodeau pour Total Energy. 25 secondes maintenant d'avance pour les hommes de tête à 94 km de l'arrivée.
Et il y a un coureur de la formation Groupama FDJ,
beau Groupetto, les garçons.
Avec Jonathan Milan. Ouais.
Milan qui s'est fait distancer. Tout à l'heure, je disais que l'équipe Lidl Trek faisait ça très bien. Il gardait l'échappée proche justement pour faire ses montées doucement. Il ne s'attendait certainement pas à voir l'équipe Ineos Grenadier mettre un grand coup de vis. Ça arrange pas du tout. Et ça arrange pas du tout les affaires des sprinteurs de Milan et de Tim Merlier.
Le peloton n'est finalement pas revenu totalement à leur hauteur après les foudres d'Ineos Grenadiers à l'approche du sprint intermédiaire et de la première difficulté du jour. Eh bien, ils ont repris du temps. Ils n'étaient plus qu'à 20 secondes. Ils ont 1 minute 4 désormais. Les deux Français, notamment Quentin Paché et Mathieu Burgodeau, Jonas Abrahamsen et Vincenzo Albanese, complètent ce quatuor de tête à 66 km de l'arrivée. 45 km encore à parcourir. Nous sommes dans la dernière difficulté du jour, le col de Tarte-Aiguille. 59 secondes d'avance pour les quatre hommes de tête. Mathieu Burgodeau, le Français, Quentin Paché, accompagné d'Abrahamsen et Albanese.
Oh là,
et derrière, ça. C'est Wout Van Aert qui attaque à l'instant dans cette difficulté. 2 km et on va essayer de réagir. Les Lidl Trek avec Quinn Simons essayer d'emmener le peloton pour Jonathan Milan. Mais c'est peut-être un baroudeur, un puncher qui va essayer d'aller chercher la victoire aujourd'hui. 24 km de l'arrivée. Qui va succéder à des garçons qui se sont imposés à Valence? Des grands noms du sprint. André Greipel en 2015, Peter Sagan en 2018, Mark Cavendish en 2021. À Valence, c'est un costaud qui s'impose. On va voir si c'est le cas dans quelques minutes.
Ça va être le moment d'être maintenant positionné. On va bientôt arriver à la flamme rouge.
Exactement. Alors que Milan lui se rapproche, il est en 5-6e position. La flamme rouge du dernier kilomètre.
Grosse chute, Tim Merlier est bloqué. Mais il y a une grosse chute. Anthony Turgis est également tombé. Il n'y a plus beaucoup de coureurs devant. On va avoir sans doute une arrivée surprise ici avec Jonathan Milan qui est toujours là. Jonathan Milan en puissance. Jonathan Milan devant Meus. Jonathan Milan qui va s'imposer une nouvelle fois. Nouvelle victoire du géant vert ici à Valence.
RMC, l'After Tour.
La victoire donc de Jonathan Milan, le porteur du maillot vert du classement par points, qui s'impose et qui remporte là son deuxième succès sur les routes de ce Tour de France 2025. Lui qui découvre la grande boucle cette année et qui donc égalise à deux partout face à Tim Merlier. Même si évidemment ce sprint nous laisse un petit goût d'inachevé, parce qu'on espérait justement voir une bagarre entre Merlier et Milan, qui ne finalement n'ont pu s'affronter qu'une seule fois depuis le départ de ce tour, deux fois plutôt, et deux fois c'est Merlier qui s'est imposé, donc c'est un peu frustrant parce que Merlier n'a pas pu participer, donc il est battu sur forfait en quelque sorte. Merlier,
ouais, il n'y a pas eu bataille. On aurait aimé avoir une dernière danse parmi les deux plus grands sprinteurs de ce peloton du Tour de France. Malheureusement, Merlier a été gêné par la chute au kilomètre, peut-être un peu trop loin au kilomètre, un peu esselé. Il a été obligé de calquer sa remontée vers l'avant sur les coéquipiers du maillot vert, et il a été gêné à ce kilomètre. C'est dommage, comme tu le dis, parce qu'on aurait aimé effectivement voir une dernière fois qui, parmi les sprinteurs, méritait ce maillot vert. Parce que sinon, on le sait, Merlier s'en est détaché depuis le départ. Il a dit depuis la première conférence de presse avant le Tour de France, le maillot vert n'est pas un objectif. Malgré tout, c'est quand même le meilleur sprinteur qui doit porter, ou qui porte souvent ce maillot-là. Et là, on a loupé le sprint pour Merlier qui, finalement, ça fera un match à 2-2. Peut-être on en aura un dernier sur les Champs-Élysées.
C'est dommage quand même qu'il se soit désintéressé de ce classement du maillot vert, parce que vu sa pointe de vitesse, s'il avait été dans le coup lors des deux étapes où il est retardé par des chutes, il aurait quand même pu viser ce maillot vert.
Il aurait été à peu près comme Jonathan Milan.
S'il avait fait les sprints intermédiaires.
S'il avait fait les sprints intermédiaires, effectivement, mais je crois qu'il a vraiment voulu sauver son énergie dès le début, sans participer au sprint intermédiaire. Maintenant, qui de Milan ou Merlier est le meilleur? Tout à l'heure, je disais, Merlier, c'est sûrement le plus rapide en vitesse pure, mais en revoyant la course, etc., je pense que Milan est un meilleur sprinteur que Merlier. Pourquoi? Parce qu'il est toujours là dans les sprints et il se fait pas piéger, notamment par le placement.
Ça, mais bien sûr.
Et pour être un bon sprinteur, tu dois être dans le final. Tu dois pouvoir faire les sprints. Et Merlier, aujourd'hui, il est gêné par la chute, mais il est pas très bien placé. Alors que Milan passe, ça tombe, bien sûr, à l'avant du peloton, dans le final. Mais c'est la première fois que Merlier se fait piéger sur un placement. Il est pas quand même là. Donc quand il est là, il gagne. Mais être un bon sprinteur, être le meilleur sprinteur, c'est quelque chose de complet. Faut aller vite et faut aussi pouvoir disputer les sprints. Quand Merlier bat Milan est quand même là dans le sprint, quoi.
Alors, question du placement, est-ce qu'on est meilleur pour se placer quand on est pistard ou quand on est cyclocross? Tim Merlier vient du cyclocross, Jonathan Milan de la piste.
Je pense que ça n'a rien à voir, okay, les deux, mais je pense qu'il te faut une très bonne équipe et un très bon poisson pilote.
Jasper
Stuyven aujourd'hui sauve Jonathan Milan, alors que Merlier n'avait pas son poisson pilote. Il était dans le coin, mais il n'était pas là pour le replacer pile au bon moment. Stuyven, il le remonte parfaitement. 10 secondes après, ça chute 3 places derrière Milan.
Et il y a quelqu'un d'autre qui le sauve, c'est Quinn Simons, parce que il faut arriver jusqu'au sprint.
Bien sûr, il faut d'abord rattraper les échappés pour pouvoir faire le sprint et disputer la victoire. Quinn Simons, depuis le début, il écrabouille les pédales, on l'a dit, il court pas toujours très bien, mais là, et d'ailleurs, ses coéquipiers se sont pas trompés.
Génial, l'image sur la ligne.
Thibonais et Tom Skuyens, ils l'ont montré du doigt en disant
c'est lui, grâce à lui.
Il a fait un énorme travail. Et Milan, dans son interview d'après course, bien sûr, dit remercie tous ses coéquipiers, et je pense bien sûr qu'il a une énorme pensée pour Quinn Simons.
C'est vrai qu'on se moque toujours de Quinn Simons,
mais on s'en moque pas.
Il est admirable.
Maintenant, il a pas, il a pas le sens le plus aiguisé tactiquement du peloton, mais c'est l'un des plus forts. En revanche, du peloton, on l'a vu à de nombreuses reprises à l'attaque. L'autre jour, il était devant, il a un peu critiqué l'attitude des motos sur l'attaque de Wellens. Il est pas le plus fin tactiquement, mais quel coureur et quel équipier, parce qu'aujourd'hui il a tout fait, il a attendu, il a roulé, il a contré, il a filtré, il a roulé, il a replacé, il est allé chercher l'échappée. Il est multi-outil, ce garçon.
Tout à fait. Comme un entraîneur de foot, quand il va faire son 11 de départ, il a toujours un mec ou deux
Peux mettre à tous les postes.
Tu peux mettre un peu, pas à tous les postes, mais t'es presque sûr qu'ils vont être titulaires, et tu peux presque les mettre partout. Si t'es directeur sportif ou manager de l'équipe Lidl Trek sur une course de 3 semaines, il te faut un Quinn Simons. D'ailleurs, on voit souvent les mêmes. Si on reste chez Lidl Trek, Tom Skuyen, c'est aussi un solide, il est toujours dans l'équipe. Quinn Simons, il t'en faut des mecs solides comme ça. Et eux, bah voilà, quand ils réfléchissent au Tour de France dès le mois de novembre, bah ils ont une pré-liste. Et bien sûr que Quinn Simons arrive en tête de cette liste-là. Et t'as toujours besoin d'un mec comme ça dans une équipe. Il est infatigable.
On doit faire aussi tirer un coup de chapeau à la sélection de Lidl Trek, parce qu'ils ont pris un gros risque en n'emmenant pas Pedersen. Et c'était
et un autre éventuellement, Julien Bernard.
Enfin, tu prends moins de risques de ne pas emmener Pedersen.
Ouais, mais c'est quand même un équipier modèle.
Oui, mais
dans le dispositif,
pour faire un choix, Lidl Trek, pour faire un choix sur le tour, ils avaient mis Skelmose pour essayer de s'en sortir un peu en montagne. Mais sinon, c'est un full choix sur Jonathan Milan. Et au début du tour, c'était pas gagné l'histoire jusqu'à sa victoire à Laval. Depuis, ils ont assuré le coup et il en regagne une deuxième. Quand tu viens sur le Tour de France avec un sprinter et uniquement un sprinter, et un leader pour le général pour faire 15, que le leader se tombe, mais que tu vas gagner deux, voire peut-être trois étapes, c'est un tour réussi.
Quinn Simons, qui a gagné trois épreuves cette année, une étape du Tour de Catalogne, une étape du Tour de Suisse, le championnat des États-Unis. Franchement, il a le moteur pour gagner une étape sur le tour aussi.
Bien sûr. Et il a d'ailleurs été souvent échappé. Et souvent, il gagne pas parce qu'il court pas très bien quand il est dans l'échappée. On l'a vu avec Tim Wellens lors de la victoire de Tim Wellens. Il s'est occupé de Storer qui, au pied de la bosse, est parti tambour battant. Il fait beaucoup plus d'efforts que les autres. Si t'es échappé avec un Quinn Simons, c'est génial parce que tu sais qu'il va faire le boulot et tu sais qu'il va pas rechigner à la tâche. Par contre, si tu veux gagner surtout une étape sur le tour, tout le monde est fort sur le Tour de France. Donc tu dois, en plus d'être fort, tu dois être malin, comme a fait Tim Wellens l'autre jour. Mais bien sûr qu'il a, pour l'instant, il n'a pas du tout le palmarès à la hauteur de son talent et de ses capacités. Ça, c'est sûr. Mais on a vu déjà, notamment au Tour de Suisse, quand il gagne son étape, il a déjà couru un petit peu mieux. Petit à petit, ça va.
Oui, parce qu'il est jeune, c'est un jeune mec, il a 24 ans.
Petit à petit, il va prendre de l'expérience. Lui, il doit être certainement un peu plus drivé que d'autres coureurs qui ont déjà peut-être un peu plus de sens de la course. Mais lui, il veut se faire plaisir, il va appuyer sur les pédales. Des fois, ça marche. Regardez Ben Hilly. Souvent, c'était un peu moqué aussi de Ben Hilly pendant un temps.
Ils ont le même âge.
Il courait bizarrement, mais ça a marché sur ce Tour de France. Pendant très longtemps, ça n'a pas marché pour Ben Hilly. Là, ça a marché. Ça ferait peut-être pareil avec Quinn Simons.
Il reste une étape qui est très importante pour Quinn Simons. Et si j'étais coureur du Tour avec un peu de réserve encore, je pointerais Quinn Simons pour samedi parce que l'étape entre Nantois et Pontarlier lui correspond à merveille. Il va pas avoir besoin de trop réfléchir. Dans le final, si t'es costaud, tu sortiras tout seul. Ça va être une épreuve épuisante, à la race, comme on dit. Ça va être très, très dur. Et à ce petit jeu-là, il sort souvent le plus fort de la fin du tour. Et aujourd'hui, il a prouvé qu'il était parmi les plus fort, voire le plus fort de cette fin de tour.
D'autant que Van der Poel ne sera pas là.
Non, et puis je pense que Milan ne passera pas ce jour-là. Donc il aura carte blanche.
Sur des étapes comme ça, comme Pontarlier, vous avez toujours des mecs qu'il faut pointer. À mon époque, il y avait Luis Leon Sanchez et Sandy Casa. Ouais. Et toujours les deux mecs, et Thomas Vauclair, bien sûr. Les trois, sur des étapes comme ça, s'ils levaient les fesses de la selle, fallait y aller. Parce que tu savais qu'ils sentaient la course. Quinn Simons, il sent moins la course, mais il a tellement de force qu'il va quand même être dans l'échappée. Donc au départ, je pense qu'il aura du monde dans la roue, Quinn Simons.
D'ailleurs, c'est lui qui rentre dans le match avec Wout Van Aert. Quand Wout Van Aert sort, c'est lui qui ramène. Il est plus fort aujourd'hui que Wout Van Aert.
Oui, il a filtré même après la descente du premier col. Il a filtré
au train.
Il était très fort, même dans le final. Vous avez vu, à un moment donné, il a relancé après le long gauche. Et il y avait quatre coureurs dans la roue. Ils se sont écartés. Il est très, très fort.
On revient sur ce match.
Oui, revenons sur ce match entre Merlier et
Milan. Est-ce que vous vous demandez quel est le plus rapide des deux, quel est le meilleur sprinter? Ils s'affrontent depuis 2021. Je vais vous donner quelques chiffres, ça va peut-être vous permettre d'avoir un jugement encore plus précis. Depuis 2021, je me suis intéressé au sprint massif où les deux garçons ont pu s'affronter et où l'un des deux a réussi un top 3. C'est arrivé 28 fois jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, c'est match nul. Tim Merlier a fait 14 top 3 où il a devancé Jonathan Milan et vice-versa. Donc là, il n'y a pas une franche différence. En revanche, là où ça me semble plus intéressant, c'est qu'il y a vraiment eu match à 10 reprises entre les deux, c'est-à-dire 10 fois seulement où les deux ont vraiment pu sprinter. Et à ce jeu-là, il n'y a pas photo, Tim Merlier a devancé à 8 reprises l'Italien. Et quand les deux coureurs font 1 et 2, là aussi, c'est le Belge qui l'emporte par 6 victoires à 1 face à Jonathan Milan. Mais Milan gagne aujourd'hui pour la 24e fois en pro contre 62 pour Merlier. N'oublions pas que l'Italien
a 24 ans, soit 8 ans de moins que son adversaire, et qu'à son âge, Merlire, à 24 ans, Merlire n'avait jamais levé les bras. Donc Milan est déjà à 24. Voilà, il commence à gagner à partir de 2019-2020.
24 ans pour Merlire, un sprinter,
l'année des 24
ans. C'est jeune quand même, hein. Mais c'est pour un sprinter de ce niveau-là, il peut progresser encore.
Ah bien sûr. Et puis c'est souvent des coureurs qui sont loin dans l'âge et qui le déclic, c'est à la première grosse gamelle ou à la naissance du premier enfant. Là, on prend peut-être un peu moins de risques, mais c'est pas un coureur qui prend énormément de risques. Hein. Il est très bien emmené. Tant qu'il est emmené comme ça, les stats le disent. Dès qu'il est dans le final, il est souvent dans le final. Merlier est plus rapide peut-être au one-to-one, mais il a plus de mal à être dans le final. Merlier est pas Milan. Mmh. C'est peut-être aussi.
Merlier, ça fait que 5 ans hein, qu'il est.
Il a été sur le cross
en 2020, ouais. Hein, donc ouais. Il est passé pro à 7 ans.
Et il s'est émancipé de l'équipe de Mathieu Van Der Poel, parce qu'au départ, il était aux côtés des Mathieu Van Der Poel. Hein. Ils avaient des sprinteurs sur toutes les courses, avec Philipsen, Van Der Poel et Merlier. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à cet âge-là, cette année, on le voit, c'est l'année des garçons qui ont 24 ans. Ouais. Benilly, 24 ans. Valentin Paré-Pinte, 24 ans. Milan, 24 ans. Voilà, c'est des jeunes coureurs, 24 ans pour Quinn Simons aussi. C'est la force de l'âge, peut-être.
On espère qu'en 2030, ça sera toujours l'année des 24 ans, parce que Paul Sexa sera 24 ans en 2030.
Donc. Voilà, mais c'est pour ça que notre ami Dominique Sarias a misé sur 2030. Et l'année des champions.
On parle du match entre les deux. On est à deux partout au niveau des victoires d'étape, mais on rappelle quand même que la première, c'est Jasper Philipsen qui l'a gagné, qu'il manque un peu.
Bah il en manque, bien sûr. Évidemment. Il y a un Olaf Koy qui n'est pas sur le tour, qui est aussi dans cette
catégorie. Et Arnaud Delis n'est pas très loin, il se rapproche.
Il est quand même un gap en dessous. Quand même.
Ouais, mais dans la préparation de ce Tour de France, il était aussi un peu plus en difficulté. Il revient bien quand même à Arnaud Delis. Arnaud Delis qui a
24 ans.
23.
Ah ben c'est pour ça, l'année prochaine. Alors, juste un mot, on va parler tout à l'heure de la bataille pour le maillot vert. Merlier ne s'y intéresse pas. Est-ce que vous n'avez pas peur que d'un seul coup, dans la nuit, il attrape un rhume et qu'il ne soit pas au départ de l'étape demain, parce qu'il ne reste plus grand-chose à se mettre sous la dent pour les sprinteurs quand même d'ici l'arrivée à Paris. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que c'est une hécatombe comme ça, une épidémie soudaine puisse toucher les sprinteurs dans la nuit?
C'est possible, c'est possible. Hein. Ils ont plus cette arrivée, le championnat du monde des sprinteurs sur les Champs-Élysées. On sait que ça a passé par la butte Montmartre, ils ne seront peut-être pas dans le final. Maintenant, je pense que Tim Merlier, mon avis, prendra le départ demain. Par contre, je ne suis pas sûr qu'il soit à l'arrivée, mais ça ne sera pas un choix. Parce que je le sens pas fringant quand même dans les étapes de montagne. Jonathan, même aujourd'hui, on a vu quand ça roulait vite. Alors, il était toujours avec Jonathan Milan, mais on sent depuis le début du tour dans la haute montagne que, bien sûr, c'est pas son terrain, mais qu'il a pas beaucoup de marge quand même. Est-ce qu'on va avoir des sprinteurs qui vont abandonner le tour ou pas prendre le départ parce qu'ils ont plus d'étapes? Peut-être, moi je trouve ça dommage à trois. Ils ont.
Sur le tour, c'est rare.
C'est rare. Il y a
deux étapes. Cipollini était quand même le spécialiste à la grande époque.
On n'a pas fini. Cipollini
de toi. Je sais plus, mais.
Il y a deux étapes très très dures. Mais plus c'est dur, plus les délais sont grands parce que c'est par rapport au coefficient, à la difficulté de l'étape. Donc ça devrait passer. Et après, mince, tu t'abandonnes quand même pas un tour comme ça. Quatre jours de l'arrivée, quoi.
Sachant, Jérôme, que. On parle beaucoup de la butte Montmartre, mais la grande majorité.
Est-ce que c'est vraiment la grande majorité pour les sprinteurs?
La grande majorité des coureurs sont un peu contre cette décision.
Il y a beaucoup qui peuvent boycotter la fin.
Ça va dépendre d'eux. S'ils ont décidé de le faire coulos, il y aura pas de la bataille dans Montmartre.
Ouais, c'est pas du tout garanti qu'on ait une grosse castagne à Montmartre.
Moi je vois pas toutes les équipes.
Tout le monde se dit ça.
Non,
tout le monde se dit ça. Moi j'y vais pas, ça m'intéresse pas. Alors, une étape à Paris, l'étape prestigieuse.
Non, bien sûr.
Avec la butte Montmartre.
Franchement,
je serais déçu.
Qui aura intérêt à Paris à foutre un bordel monstre dans Montmartre?
C'est vrai que sans l'absence de Van Der Poel, c'est.
Moi je vais te donner une équipe. Si la Groupama FDJ n'est pas si brillante, va pas chercher une victoire.
D'accord.
C'est le terrain de Valentin Madouas.
Très bien. C'est ok, Valentin a fait une médaille sur ce parcours-là, Romain Grégoire marche, mais est-ce que.
Mais c'est la dernière étape, il y en a plein qui vont se retrouver, Fanny, tu crois que personne va avoir envie de faire
tenter
la course.
Mais est-ce que ça peut faire basculer la course? Et est-ce que ça va pouvoir faire exploser le peloton? Est-ce que la Groupama FDJ...
Non, mais ça va faire exploser les sprinteurs.
Non, mais il y aura du mouvement, c'est certain. Oui, les purs sprinteurs, peut-être. Un Wout van Aert au top de sa forme, par exemple.
Ah ouais, mais un Wout van Aert vainqueur à Paris serait magnifique.
Bien sûr, ça serait magnifique. Mais est-ce qu'il est capable de faire tourner la course et vraiment de tout faire exploser? Je suis pas sûr. Il y en a un qui peut le faire.
Oui, Quinn Simons.
Ah ouais, les Quinn Simons. Mais il y en a un qui peut tout faire.
Tadej Pogacar. Tadej Pogacar pour une victoire de prestige.
Ça, c'est jaune. Pas impossible.
Parce que le dernier maillot jaune à s'être imposé sur les champs, ça doit être peut-être Bernard Hinault.
Bernard Hinault, je pense. Ouais. Ouais.
Ouais. Donc lui, c'est possible. Lui, ouais. C'est possible.
Et puis il faudra voir le. On n'est pas là. On a les Alpes. Il faudra savoir aussi où en est le classement général, les différentes positions entre chacun.
Puis il faut qu'il en reste dans le sac à Paris. Hein.
Et puis, quid de, du
là,
début.
Il y a trois jours difficiles qui arrivent.
Non, mais aussi, il y a le début de l'étape. Hein. Si on a mis Montmartre, c'est qu'on veut une vraie étape. Pour avoir fait 14 fois,
champagne,
14 fois l'étape, l'étape de Paris, pour partir de où vous voulez, on passe toujours par la vallée de Chevreuse, il y a toujours des bonnes patates. Si ça fait la course, il peut y en avoir partout. Ça peut être une étape comme Toulouse. Donc, où va se déclencher l'étape? On boit du champagne et on monte Montmartre attaqué. Moi, je le fais pas. Hein. Le champagne, je le bois pas. Hein.
Mais oui.
Bah non.
Bah on verra non. Ceux qui boivent du champagne et ceux qui n'en boivent pas dimanche.
C'est pour ça que on peut aussi avoir. Cas, ça on peut aussi avoir Christophe un tour ou deux. On sait qu'on va passer. Il y a un circuit à Montmartre. On peut aussi trois faire fois, hein, un ça, tour ou ça. Deux. Ouais, il y a trois passages. Et si ça se joue que sur une ascension, il n'y aura pas des dégâts.
Par rapport à la bataille sur le maillot vert, on rappelle quand même que demain. Jonathan Milan, il faut qu'il fasse une course de 23,5 km et après-demain de 8 km.
Ouais, ça, c'est une bonne nouvelle.
Pour aller chercher les sprints intermédiaires. Ils sont très, très tôt demain. Ouais, ouais.
Mais
il
demain,
y a 40 points.
Demain, 23 demain, km, on passe d'abord par Vizille. On aura une grosse pensée pour Thierry Claverolla.
Exactement. Ouais. L'aigle.
Pour sortir de là, Milan, demain, si ça castagne, il va pas être au mieux.
Il faut que les Lidl Trek contrôlent.
Bon, ouais, mais il faut qu'il
suive.
Ouais, c'est ça.
Tu peux contrôler, mais il faut se mettre derrière lui pour le pousser. On va l'écouter quand même, le héros du jour. Donc, Jonathan Milan, qui n'était pas au courant d'ailleurs de la chute, intervenu juste derrière lui et qui commence sérieusement à s'intéresser et y croire à ce maillot vert. On l'écoute.
Je suis vraiment heureux. C'était vraiment dur, mais on a vite eu la course en main avec l'aide d'autres équipes. L'arrivée était compliquée à cause de la météo. C'est fantastique. En tout cas, une belle victoire d'équipe. Et je tiens à remercier mes coéquipiers pour ça. Je suis très content pour nous tous. C'est un bel accomplissement. Il reste des étapes très dures, mais gagner deux étapes et porter le maillot vert, c'est dingue. Et je vais me battre pour le garder jusqu'au bout.
Voilà, Jonathan Milan, journée bien remplie et très bénéfique. Il fait le plein pour le maillot vert, puisque outre la victoire d'étape, il a aussi remporté le sprint intermédiaire. Il est ce soir...
Cinquième, premier des sprinters.
Excusez-moi. Il y avait les quatre devant. J'avais oublié.
Non, mais il fait quand même en bout de troisième semaine. C'est dur.
Il fait presque le plein.
Donc, tu passeras pas Montmartre, notamment.
Non, je passe
pas. Il sera
aussi à le champagne. Surtout pas la Lose.
Demain, pour toi, ça peut être l'école de la Lose, plutôt que l'école de la Lose.
Juste, peut-être le chiffre qui pourrait porter chance à...
C'est mon fil conducteur, là.
Je vais dire amener. Peut-être le chiffre qui pourrait porter chance à Jonathan Milan, c'est que les deux dernières fois où on est arrivé à Valence, victoire de Peter Sagan et de Mark Cavendish, ils avaient le maillot vert et ils l'ont emmené jusqu'à Paris.
Bon. 312 points, c'est 72 de mieux que Pogacar.
C'est pas beaucoup avec le nombre de points qu'il reste. Après, moi, je pense que le maillot à poids et le maillot vert, ils sont entre les mains de Visma Lease a Bike. Les gens vont dire il est fou celui-là, ils ont pas de... mais bien sûr que oui. Si, parce que tout va dépendre de la stratégie de Visma demain, comment ils vont attaquer cette étape. Est-ce que Vingegaard gagne le tour comme tu l'as annoncé il y a deux semaines et demie. Ils vont déjà tenter. Bon, il a pas attaqué dans le Ventoux pour faire le spectacle, hein, c'est pas le but de Vingegaard, et je pense que demain il va faire pareil. Mais à partir de quand il va vouloir attaquer? Jérôme l'a dit, il connaît mieux le vélo que moi. Jérôme, il a dit ils peuvent attaquer de loin. Eh ben on verra. S'ils ont décidé d'attaquer de loin, Pogacar, maillot vert, Pogacar, maillot à poids.
Là, Christophe,
s'il ne le lâche pas. Par contre, s'il laisse partir l'échappée et que le plan, c'est uniquement dans le final, alors il y a une chance pour Lenny Martinez ou un autre et pour Jonathan Milan.
Christophe, tu es d'accord qu'il est en train de mettre en l'air tout ton conducteur?
Non, mais je vais le laisser faire la lutte de Visma Lease a Bike, c'était pour plus tard. Il reste juste 37 minutes, tu te débrouilles maintenant. Voilà.
Allons-y. Comme ça que ça Alors, on va faire un quiz.
Un mot quand même de Binyam Girmay, qui a chuté dans le final, dans l'emballage. Alors, je ne sais pas si on a des nouvelles.
Oui.
On n'en a pas
trop d'inquiétude. Il est allé passer des radios. Il n'y a rien de cassé. Donc, du côté de l'équipe Intermarché, on était plutôt rassurant ce soir. Il faut voir au réveil.
Marseille demain. Mais pour tous ceux qui ont chuté, d'ailleurs, il n'y avait pas trop d'inquiétude, mais l'étape de demain, elle est difficile.
Pas trop, mais Intermarché ou Anti, l'équipe de Guirmay, n'ont pas eu de chance aujourd'hui. Il y a eu Louis Barré, il y a eu Hugo Page aussi qui sont allés au sol, donc trois de chez eux. Tu disais, est-ce que Merlier va pas avoir une petite grippette pendant la nuit?
Binyam
Guirmay, là, demain, va falloir avoir les bonnes jambes. On le répète encore, des fois, c'est 48 heures après. Dans deux jours, l'étape, elle n'est pas beaucoup plus facile que celle de demain. Faudra voir.
Je suis pas sûr qu'il voit Montmartre.
C'est peut-être lui, un des sprinteurs qui grimpe le mieux, donc peut-être qu'il peut réussir à sauver. À voir. Mais là, c'est quand tu te pluches comme ça que t'es sprinteur, la veille des deux plus grosses étapes de montagne du Tour, c'est compliqué.
Ça serait dommage parce que lui, typiquement, peut gagner à Paris.
Oui, mais enfin, c'est pas du tout le même Guirmay que l'année dernière. Hein. Il a pas l'impression de voir le même coureur.
Rappé comme ça, rappé comme il est, il est pas dans le jeu au niveau des sprints. Et rappé, l'épaule est douloureuse, il a beaucoup de plaies. Ça va être beaucoup le.
Tu conseillerais d'arrêter, toi ?
Non, mais je le vois surtout pas passer l'étape de demain. Ça va être très compliqué.
Et si je peux me permettre rapidement une petite parenthèse là-dessus, il y a aussi certainement des choses qui trottent dans la tête de ces coureurs-là, c'est qu'Intermarché et Lotto, la rumeur, c'est que ça va fusionner, ces deux équipes-là vont fusionner, ça veut dire que certains coureurs doivent chercher ailleurs. Guirmay, il aura pas de problème pour retrouver un contrat, mais peut-être qu'ils ont rien signé encore.
On a croisé l'autre jour à 7 quand même, le patron de Lotto,
ça a été officialisé en Belgique, hein.
D'accord.
Les deux équipes Intermarché, Wanty et Lotto vont n'en faire qu'une à partir de l'an prochain.
Ils ont 34 coureurs sous contrat, les deux équipes encore. Donc il y a trop de monde, sachant qu'ils vont devoir recruter un petit peu. On a beaucoup parlé à juste titre de l'équipe d'Emmanuel Hubert qui est en difficulté, qui va peut-être pas pouvoir continuer faute de sponsor. Le vélo, il n'y a pas qu'en France où il va pas très bien. Il y a ça. On parle de l'équipe Alpecin de Koenig.
Ça va laisser du monde sur le carreau.
Bien sûr. Alpecin de Koenig, l'équipe, même si elle a des résultats incroyables, va pas très bien non plus. On parle aussi d'une potentielle fusion.
Alors ça, c'est aussi officiel. Le sponsor de Koenig va se désolidariser. En tout cas, arrêtera de sponsoriser l'équipe à la fin de l'année, à la fin de son contrat.
Il n'y a pas qu'en France que la situation est compliquée, hein, mais pour toutes les équipes du peloton international. 19h26, dans un instant, on va évoquer les échappés, hein, oui, parce qu'il y a eu des échappés aujourd'hui, dont deux Français, et puis cette drôle de tactique de ne pas vouloir attendre encore la formation Ineos, qui a peut-être gêné l'avancée de cet échappé. Et puis, en troisième partie de cette émission, de cet after, on évoquera
RMC, 19h20, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Toujours en direct de Valence ce soir, au terme de la 17e étape du Tour de France, remportée donc par Jonathan Milan, le sprinteur italien qui est désormais largement en tête du classement par points. Mais sait-on jamais, avec le programme qu'il attend demain, après-demain, samedi et dimanche, eh bien il pourrait perdre ce maillot vert qui pourrait profiter à Tadej Pogacar. On va revenir également sur la journée, parce que avant ce sprint, il y a eu une échappée au long cours de quatre coureurs: Burgodo, Paché, les deux Français, Albanais et Abrahamsen, qui ont longtemps tenu tête au peloton, mais qui ont bien failli se faire reprendre dès la première difficulté du jour, lorsque la formation Ineos s'est mise à rouler. Alors, ceux qui ne connaissent pas bien la tactique du peloton ont pu être surpris de voir cette attaque Ineos, mais c'était une sorte de revanche, de mission.
C'est-à-dire, il y a des codes en fait dans le Tour de France et dans le cyclisme en général. Quand il y a une échappée, ici il y a un garçon qui essaye de rentrer dans cette échappée. Éventuellement, on l'attend s'il est pas trop en retard, quoi.
C'est ça. Oui, ça dépend des situations, ça dépend des profils d'étape, ça dépend de plein de choses. Là, il y avait que quatre coureurs en tête quand Axel Laurens a attaqué derrière, un petit peu à contretemps, mais il est pas non plus parti quand il y avait 3 minutes d'écart. Mais sur une étape comme ça, on pouvait s'attendre à ce que les quatre coureurs échappés attendent Axel Laurens, parce qu'à 5, quand tu sais que c'est une étape qui est destinée pour les sprinteurs, t'as quand même plus de chances d'aller au bout. Plus t'es nombreux, plus t'as de chances d'aller au bout. Malheureusement, les quatre coureurs de tête n'ont pas voulu attendre Axel Laurens. Ça, on a tout de suite dit que c'était une erreur, parce que potentiellement, c'était une équipe qui allait rouler dans le final. Ils ont laissé Axel Laurence en carafe entre les deux. Il s'est fait reprendre. Et dans la bosse d'après, Ineos ont roulé à bloc simplement pour rattraper l'échappée et pour punir les quatre hommes, enfin les quatre équipes en tout cas, de pas avoir attendu le Français. Et ça, c'est une erreur parce que, enfin, l'erreur, c'était de pas attendre Axel Laurence. Par contre, Ineos Grenadiers n'ont pas non plus très bien couru parce qu'ils ont rapproché le peloton, mais ils ont pas été capables de gicler avec un coureur pour entrer sur l'échappée. Et ils ont surtout pas été capables de ramener le peloton sur l'échappée. Donc nous, on a dit qu'il y avait mieux à faire éventuellement quand Axel Laurence était un peu planté entre les deux groupes à 40-50 secondes. Ils auraient dû rouler à l'avant du peloton pour dire soit vous l'attendez, soit nous on ramène tout. Et ils auraient été capables, Ineos, de le faire sur le plat. On a vu que dans les bosses, ils sont un peu plus justes et qu'ils n'arrivent pas à boucher le trou dans une bosse. Je pense que ça aurait rien changé au final, mais c'est toujours mieux d'être 5 que 4.
Ça veut dire que les DS dans la voiture faisaient la sieste cet après-midi ou quoi dans les voitures des 4 échappés?
Non, parce que Maria a eu
Stéphane
Goubert qui a dit nous on voulait pas donner 50 secondes au peloton, c'est-à-dire il voulait pas attendre Axel Laurence qui avait que 50 secondes d'avance sur le peloton, mais tu donnes pas 50 secondes au peloton, tu ralentis simplement, Axel Laurence continue à faire l'effort pour rentrer et de toute façon le peloton va se caler sur l'allure des échappées. Donc ça, c'est pas une raison pour moi, mais il n'était pas tout seul, le directeur sportif de
Contrapaché. Non, il y en avait d'autres. A priori, c'était
donc, ils ont dû tous se mettre d'accord.
Discuter ensemble.
Alors après, si Goubert avait dit on voulait pas faire revenir Axel Laurence parce qu'il grimpe bien, parce qu'il va vite au sprint, si jamais on va au bout, j'aurais presque mieux compris que de dire on veut pas donner 50 secondes. Parce que c'est vrai que s'ils arrivaient, s'ils attendaient Axel Laurence, qu'ils arrivaient à 5, il va quand même très vite Axel. Donc ça, j'aurais mieux compris. Là, niveau tactique, ça a pas été bon, mais je pense que ça changeait rien.
Est-ce que oui, c'est ça. Est-ce que ça aurait changé la donne, le fait qu'il y ait un cinquième homme dans le
Abrahamsen a été le plus loin. Il a été repris aux 3 ou 4 kilomètres de l'arrivée. Axel aurait certainement pu aider, mais surtout qu'ils auraient économisé quand même beaucoup d'énergie pendant l'étape, car ils ont été obligés de se mettre à 100% dès la mi-course, quasiment 80-90, parce que derrière, c'est rentré à 20 secondes. On sait qu'une échappée, avec le peu de chance qu'elle a d'aller au bout, c'est sa capacité à jouer elle aussi avec le peloton, de rouler plutôt tranquille, de passer des relais vraiment en dedans, d'être à 60-60% et à accélérer le plus tard possible. C'est-à-dire que quatre garçons encore en forme quand même, ils ont fait un beau numéro aujourd'hui avec le vent défavorable, capable d'accélérer aux 20-25 km avec 2 minutes d'avance, ça occupe un peloton, surtout avec le final comme il était aujourd'hui. Donc l'erreur, elle a peut-être été là, de pas attendre Axel, de perdre peut-être 30-40 secondes sur le coup. Le peloton se serait recalé de toute façon entre 2-30 et 3 minutes, de jouer un peu avec le peloton toute l'étape, de monter les bosses en dedans et de mettre un grand coup de gaz sur le final en espérant que avec l'appui, le peloton prenne moins de risques. Et là, on aurait pu peut-être aller au bout.
Alors, dans ce groupe, il y avait donc deux Français, Burgodeau de la formation Total Energy et Quentin Paché de la Groupama FDJ. C'est ce dernier qui a été donc désigné combatif du jour. La victoire de Paris-Pinte hier avait donné des idées aux Français et notamment à Quentin qu'on va écouter.
Depuis le début du tour, toutes les journées sont un petit peu folles. On a vu que souvent il y avait des échappées qui se formaient assez tôt et parfois des contres qui repartaient au fil de la journée. C'est un petit peu une fois que quand je me suis retrouvé devant, ce à quoi je m'attendais. Ça s'est presque passé parce qu'on a vu que, enfin, j'ai entendu moi que les Ineos avaient relancé dans le premier grimpeur. Wood Van Aert est revenu pas loin dans le second. Bah, au final, c'était le plan. J'aurais espéré que y ait quelques coureurs qui reviennent avec nous pour qu'on puisse jouer la victoire. Ça s'est pas passé, mais bon, moi j'ai essayé quoi. En vrai, je veux pas mentir, j'aurais préféré qu'on joue la victoire et pas spécialement être combatif et avoir une chance de gagner l'étape. Je retenterai ma chance plus tard.
La question est posée à Marc Madiot. Alors, content le prix de la combativité, bon, je pense qu'il valait mieux.
Mais là, on vient en contradiction.
T'es pas content.
On vient complètement en contradiction avec ce qu'on vient de dire, puisqu'il dit qu'il espérait le retour de coureur. Il y a un coureur qui a essayé de rentrer, ils l'ont pas trouvé.
C'est bizarre, ouais. Étonnant. Peut-être qu'ils l'ont.
Ils l'ont peut-être pas dit au coureur.
Non, mais peut-être que lui était d'accord, Quentin, d'attendre, finalement. L'ordre est peut-être venu de plus haut, et puis tu t'écoutes, hein.
Alors, le combatif du jour. Est-ce que pour vous, Quentin Paché, le combatif du jour? Moi, ça fait plusieurs jours quand même que je suis un peu frustré parce qu'il faut savoir que le vote du jury, dont Maria fait partie, se fait en amont de l'arrivée. C'est-à-dire qu'on est obligé de donner le nom du vainqueur, genre 10 minutes, 20 minutes même avant l'arrivée, 20 kilomètres. Et du coup, c'est souvent dans le final de l'étape que ça se décide, que le plus combatif se décide. Là, en l'occurrence, Abrahamsen était le dernier. Il a vraiment tenu tête au peloton jusqu'à quelques kilomètres de l'arrivée. C'est lui qui aurait dû être désigné.
Moi, je suis Abrahamsen, je vais au protocole direct.
Ouais.
Bah oui, j'attends même pas. Bah,
mais en général, c'est quand même ça. C'est celui qui va le plus loin dans l'échappée.
C'est soit ça, soit celui qui lance l'échappée. En l'occurrence, ça c'était Quentin Paché. Sur ces étapes de plaine, c'est difficile parce que, bah, comme ils doivent donner le vainqueur bien avant l'arrivée, bah, si c'est pas, entre guillemets, pas passé grand chose, bah, c'est celui qui a lancé l'échappée qui va être le plus combatif. Sur les étapes de montagne, c'est différent. Il se passe toujours des trucs tout le long de l'étape et t'as une vision assez claire avant l'arrivée de qui tu peux mettre en plus combatif. Là, c'est compliqué. Sur le règlement, comme ils doivent donner le vainqueur bien avant l'arrivée, bah, Quentin Paché, c'est logique parce que c'est lui qui a lancé l'échappée finalement. Mais après la course, quand tu regardes l'ensemble de l'étape, ouais, ça aurait dû être Abrahamsen parce qu'il a fait péter tout le monde, parce qu'il a été très loin. Ouais, voir Quinn Simons. Après, c'est quand même souvent un mec de l'échappée qui.
Oui, mais c'est les codes. C'est les codes à l'ancienne, un peu quand même, ça.
Bah ouais.
Dire un Julien Lafilippe l'autre jour qui chute, qui revient, qui lève les bras, qui croit qu'il est vainqueur, il aurait dû être
Thomas Gachignard.
Mais parce qu'on l'a. Voilà,
Gachignard, exactement. Ouais.
Mais de nouveau, pour Julien Lafilippe, c'est parce qu'on doit de nouveau donner le nom bien avant la fin.
C'est
pas
trop tôt.
Savoir que Julien allait terminer
troisième. C'est la seule récompense qui vient avant que l'étape soit terminée.
C'est ça.
C'est comme si on donne l'Oscar avant qu'on ait vu le film, quand même. C'est quand même dingue. Enfin, bref.
Mais voilà.
J'en ai parlé à Maria qui va essayer de jouer de son influence.
Dès que
tu as
des règles un peu floues, on parlait du carton jaune, chose, dès que tu as des règles c'est voilà.
Là, c'est à l'interprétation des coureurs, des juges. Et puis. On récompense aussi Paché. C'est pas une honte de voir un Quentin Paché sur un podium de combatif. Il se bat depuis le début du tour avec ses armes. Il attaque souvent, il est souvent devant. Abrahamsen a déjà gagné une étape. Je pense que ça a dû aussi peser dans la balance pour le vote. Parce qu'Abraham,
si on en est à ce genre de choses.
Mais je pense que c'est. Christophe, il a surtout un avantage hein, quand t'as pas chez.
Il est français. Il n'y a que des Français dans le.
Non, il y a.
Benilly a été.
Non, déjà, dans le jury. C'est bien. C'est pour ça qu'on gagne très souvent le classement de la combativité. 19h.
On gagne des étapes maintenant aussi.
Même en plus, on gagne des étapes.
On gagne tout.
Enfin, pas les équipes françaises.
On est ultra.
Ah oui, pas des équipes françaises. Combien de jours déjà
28.
Non,
28 étapes, pas 28 jours.
28 étapes.
28 étapes.
Victoire d'une équipe française.
Oui.
19h38. Il va chercher la petite bête, c'est comme ça. Allez, on se retrouve dans un instant. On va évoquer le plat de résistance de ce Tour de France qui débute donc demain. Deux étapes dantesques. La première en direction du col de la Lauze, la deuxième en direction de la Plagne. On en parle dans un instant. Tout va se jouer demain. Le maillot jaune, le maillot blanc, le maillot à pois rouge. Ça va être la grande bagarre dès le départ, peut-être pas. Mais en tout cas, on va se régaler. À tout de suite sur RMC.
RMC, 19h20, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
19h41, toujours en compagnie de Jérôme Coppel, Jérôme Pinault, Pierre-Yves Leroux. On va donc s'intéresser, messieurs, à ce plateau alpestre qui nous attend. Donc,
la grande étape.
La grande étape, c'est l'étape reine de ce Tour de France
Oui.
Largement au-dessus de
Landon, Madeleine,
au-dessus de Hautacam.
Que des cols mythiques. Et il y a le plus de dénivelé positif. C'est l'étape avec le plus grand dénivelé positif. Donc,
c'est que des cols hors catégorie.
C'est que des cols hors catégorie. T'en as trois.
C'est 66 km de montée. Ça cale un bonhomme quand même.
C'est 80
points. Ça cale un bonhomme, tu m'étonnes.
80 points, meilleur grimpeur.
Bon, ouais. Donc, les chiffres parlent pour cette étape. Et en plus, c'est mythique, quoi. C'est Glandon, Madeleine, la Lauze.
C'est-à-dire les deux cols mythiques, mais dans l'histoire du Tour de France, et ce col de la Lauze, dont on va parler dans un instant avec Émile Morand, qui là est une découverte plus récente, mais qui est
c'était
aujourd'hui.
C'était une piste de ski à l'époque.
C'est ça.
Mais là, ils vont finir sur une piste cyclable. C'est une très belle montée, mais elle a été fabriquée, cette montée.
Ouais,
c'est pas comme la Madeleine,
où
le
sont
Glandon.
Passés nos anciens, nos aînés, les forçats de la route.
Ouais. Donc c'est différent.
C'est différent.
L'histoire
ne parle pas.
Moi, le col de la Lauze ne me parle pas du tout.
Galibier, ça
ne m'intéresse pas du tout. Alors déjà, c'est trop dur. Mais ces trucs fabriqués, je ne suis pas fan.
C'est comme la super belle-fille, alors.
Ouais, bah voilà. La planche, c'est bien. Je trouve ça bien. La super planche. Non, je suis pas fan de ces trucs.
Ouais.
Moi, j'aime voilà où sont passés les anciens,
Glandon,
Madeleine, ça c'est mythique.
Galibier, Isoard, Alpe d'Huez, voilà, c'est des choses. Mais même si t'aimes pas trop l'Alpe d'Huez, GG.
Ouais, ouais.
C'est des cols mythiques. Le Tourmalet, c'est un col mythique. Le col d'Aspin, voilà.
Mais pas les super quoi.
Non,
super. Ouais, super plan.
Oui, c'est trop marketing pour vous.
Bah pour moi c'est alors c'est super pour le spectacle. Mais pour moi il y a
après
y a
l'arrivée
pas,
au col de la Lauze, c'est l'un des cols. On a ce col là. qui est très particulier par rapport au reste des autres. Oui, c'est-à-dire que c'est une montée type Angliroux, l'école de la Finestre, Mortirolo, tout ça.
De plus en plus dur.
Mais je trouve, et alors vous allez me dire, c'est normal parce que c'est récent, mais je trouve qu'il n'y a pas d'âme dans ces écoles.
C'est normal parce que c'est récent.
Oui, c'est récent, mais
c'est-à-dire que l'ombre de copie, l'ombre de Bernard Minot, de la bise.
Alors ça ne me parle pas du tout.
D'accord. Bon, alors ça parle un peu plus à Kevin Morand, qui lui, au moins, est allé reconnaître ce col, Kevin.
Tout à fait, c'était
en vélo.
À vélo ou à vélo électrique?
C'est pas en vélo électrique, mais côté Méribel, pas le côté que va monter le peloton demain. J'étais en reconnaissance donc il y a un mois avec deux coureurs de Décathlon AG2R, Clément Berthet et Aurélien Paré-Peintre. C'était dans le cadre d'un stage d'altitude d'une semaine. Ils avaient reconnu également la Plagne la veille. Et donc ils ont fait ce jour-là une grosse sortie montagne de 5000 mètres de dénivelé, 6 heures sur le vélo. Et donc, ce col de la Lauze, ils ont profité d'être aux Arcs 1950 en fait pour faire cette reconnaissance. Donc après le passage au pied Bride-les-Bains, ils montent les différentes stations de Courchevel, le Prat, le village, Montrion, etc. Jusqu'à passer donc près de l'Altiport et la ferme de Pralon, et là remonter cette piste cyclable que d'habitude ils empruntent en descente, qui est d'ailleurs assez dangereuse, mais là donc avec des toboggans aussi qui descendent, moins de ruptures de pente que du côté de Méribel, c'est ce que nous ont dit les coureurs au sommet. Au total donc 26,5 de moyenne en pourcentage et 1h32 ce jour-là donc pour les deux coureurs de montée. Écoutez l'avis de Clément Berthet sur ce côté du col de la Lauze via Courchevel.
C'est très long aussi, mais je pense que c'est un peu moins dur de ce côté quand même. Parce que ouais, l'autre côté, j'ai pas que des bons souvenirs quand on était passé. Ouais, j'avais vraiment trouvé ça très très dur. Je pense que les parties raides sont plus longues. Là, au final, c'est juste la fin, c'est pas si long que ça. Il y a une grande partie roulante au milieu. Après, c'est plus la longueur, je trouve, qui fait la difficulté, quoi.
Aurélien Paré-Peintre, lui, nous avait même soufflé au sommet du col de la Lauze que de l'autre côté, c'était dégueulasse. Et que donc, ce versant de Courchevel a clairement sa préférence dans cette montée qui devient un classique du tour. On peut aussi l'écouter, Aurélien Paré-Peintre.
C'est un col qui est plus régulier, on va dire qu'il y a beaucoup moins de ruptures de pente comme depuis le côté Méribel, mais un peu plus dur sur le pied, notamment jusque Courchevel 1800. Il faut penser que ça va être une ascension qui va être entre 1h10. Donc c'est quand même rare qu'on fasse des ascensions aussi longues. Voilà, la Lauze, ça fait pas longtemps qu'on le pratique, mais il y a un petit mythe qui se prépare, qui se mijote avec la Lauze. Forcément, c'est l'étape mythique du Tour, c'est l'étape reine, donc ça va être une étape très prisée, quoi.
Voilà, donc ils ont profité de ce stage aux Arcs 1850 pour reconnaître ce col atypique, nous a dit l'équipe aussi, isolé aussi géographiquement du côté de Courchevel, et puis s'imprégner de l'aspect psychologique du Tour, se mettre dans le Tour et l'aspect montagneux aussi du panorama.
Mais c'est marrant parce que les coureurs actuels du peloton n'ont pas le même regard sur cette étape. Pour eux, c'est un col mythique parce que ils l'ont franchi. Vous l'avez jamais fait en course, c'est peut-être pour ça aussi que...
Ouais, peut-être, je sais pas, mais pff, ouais, j'aime pas ces trucs fabriqués, je sais pas, j'ai pas de vraiment d'arguments à proposer à ça, mais tant qu'on a du spectacle, ça nous va très bien. Mais tu finis sur une piste cyclable, tu finis sur un chemin de terre à la super planche des belles filles. Je sais pas, je trouve qu'il y a suffisamment de très beaux cols mythiques pour pas créer quelque chose artificiel.
Après, le col de la Finestre, par exemple en Italie, c'est fini dans la terre, mais c'est mythique.
Oui, c'est mythique.
Moi, pour avoir pas mal de passionnés de vélo, des cyclos au magasin, les tous me parle des grands cols que sont l'Izoard, le Galibier.
Ouais, mais ils ont quel âge, les clients? Ça revient à ce que dit.
C'est l'histoire qui parle. Voilà, donc, ça. Dans la tête des gens.
Non, on est des vieux, hein.
Voilà, c'est ça.
Non, mais peut-être que.
Kevin, c'est un jeune, on regarde. Enfants, dans le col de la Lauze.
Non, mais peut-être que les enfants qui regardent le Tour, qui sont en âge de regarder le Tour depuis 5-6 ans, qui ont vu Thibaut Pinot, etc., sur le col de la Lauze, peut-être que eux, ça leur parle. C'est mythique. Le col de la Lauze, par l'autre côté surtout, moi, je trouve que c'est tellement dur qu'en fait, t'as pas de course. Mais qui s'accrochent comme ils peuvent, ils montent comme ils peuvent et t'as pas d'attaque.
C'est comme Péragude l'autre jour, les mecs qui vont.
Bah voilà, ça casse par l'arrière et je trouve qu'il n'y a pas forcément de spectacle. C'est pour ça que je suis curieux de voir la Lauze par contre par ce côté-là.
Oui, parce que par le côté-là, c'est différent.
Bien
par
sûr,
l'autre côté, c'est un peu l'Angliru. Là, de ce côté, voilà. C'est un peu plus roulant.
Et là, on devrait voir de la course, le scénario devrait être un peu différent que par rapport à l'autre côté.
Donc si je vous suis, les Strade Bianche, ça vous intéresse pas, quoi. C'est nouveau, c'est pas.
Ah oui, tiens, c'est pareil, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'on a créé une
pour l'instant, l'Estrade Bianche dans nos têtes, c'est pas Liège-Bastogne-Liège, c'est pas Milan-San Remo.
C'est pas un monument.
C'est pas un monument.
Moi, je suis pas d'accord.
Mais c'est très formidable.
C'est la plus excitante du printemps, franchement.
Ah oui, une des plus spectaculaires. Mais c'est pas pour rien.
Plus intéressant que Liège-Bastogne-Liège aujourd'hui.
Ça manque de kilomètres. C'est pour ça.
De kilomètres, etc.
Dans le scénario de la course, l'Estrade Bianche, c'est super intéressant. Mais dans le mythe, c'est toujours pas la hauteur parce que les grands champions. Mais on parle du col de la Lauze. Il y a Superman Lopez. Moi, ça me fait pas rêver. C'est lui qui a gagné la première fois. La deuxième, c'est
Félix Gall.
Bon, voilà. Il y a aussi qui a gagné là-haut. C'est important. Le mythe du col de la Lauze, c'est Pogacar a craqué. Voilà, on a reçu ça.
Bien sûr.
On a ça. Mais les grands vainqueurs, c'est d'abord le vainqueur. Et après, le lieu, voilà. Mais ça fait un point qui fait que certaines courses sont dans la légende et pas d'autres, et des cols pareils.
Au Tour de France 2045, rappelle-toi, dans 20 ans, on regardera, pas, on en reparlera et on verra
sûr,
si le col de la Lauze est devenu
dans mon
mythique.
La planche est en train de devenir mythique, la planche des belles filles, parce que Tadej Pogacar à ce jour-là renversé le Tour de France. Il y a un moment qui va avec le lieu. Je crois que c'est important d'avoir les deux pour rentrer dans la légende.
Je suis étonné que vous soyez si conservateur. Moi, j'ai cet avis, je comprendrais. Mais vous, qui êtes encore de jeunes hommes, messieurs.
Mais tu sais, Christophe, il y a les changements de parcours.
Mais vous ne supportez pas la nouveauté.
Mais par exemple, moi, je suis assez critique vers l'Alpe d'Huez. J'aime pas. Je trouve que cette montée n'est pas belle.
Il n'y a plus rien.
L'Alpe d'Huez, en revanche.
Monte-le par l'autre côté.
Non, mais l'Alpe d'Huez, en revanche, c'est le mythe de l'histoire. Là, c'est les grands champions qui ont triomphé à l'Alpe d'Huez.
Là, GG, par contre, c'est l'endroit.
C'est mythique.
Moi, j'étais gamin. Ino, Lemon, l'Alpe d'Huez, c'est le premier col. Si mon père m'avait dit, tu veux monter quoi en premier, je voulais monter l'Alpe d'Huez, parce que c'est le lieu, oui, mais parce que il s'est passé des choses incroyables, et parce que
quand tu vois
des grands
de chaque
oui, mais ça l'est peut-être
guerre,
moins aujourd'hui. Effectivement, l'Alpe d'Huez est peut-être passé par de nouveaux sommets.
Peut-être.
Bon.
Pas par la Lauze, en tout cas.
La Lauze, ok, mais il y aura des choses avant quand même.
Granon, Madeleine, là, tu poses. Hein.
Le col, donc il n'y en a que trois. C'est plutôt la bonne nouvelle.
C'est tout.
Le plus court, ça sera le deuxième, 19 km.
Oh, la Madeleine, j'ai toujours l'impression que c'est le plus long. Je le trouve interminable.
Non. Col du Glandon, 21,7 km. La Madeleine, 19,2. Et la Lauze, Kevin l'a dit, 26,4 km. Donc là, tu démarres. Vous savez, vous arrivez au pied des cols. Vous avez ce petit panneau là qui dit début de col, sommet.
Bah, 26 km.
Quand vous arrivez au pied, sommet 22, sommet 19, sommet 26. Et imaginez, ça, c'est les grimpeurs. Donc quand vous êtes Jonathan Milan avec votre joli maillot vert, vous arrivez en bas, vous dites bah là je suis pas en haut avant deux heures de temps, c'est très très long. Hein. L'étape de demain, franchement, il y a pas un mètre de plat entre Vif et Courchevel. Dès le départ, ça va être une vallée pour aller chercher le sprint montant.
Vallée montante, hein.
Et bien sûr. Et les trois cols, tu montes, tu descends, t'as pas de vallée, t'auras 10 km entre le bas de la descente de la Madeleine et le pied du col de la Lauze, c'est tout. Si demain tu veux vraiment t'es une équipe costaud, tu veux vraiment foutre le bazar, il y a vraiment de quoi faire demain.
Dommage qu'on ne soit pas allé basculer jusqu'à la Croix de Fer quand même. Moi j'aurais été jusqu'à la Croix de Fer.
Et il y a 170 km.
Ça en met un petit coup.
Bon. 170 km, sachant que pour les coureurs du Tour, c'est pas forcément très très long comme étape de montagne, ça peut être beaucoup plus long. Donc je pense qu'on peut avoir vraiment une étape d'anthologie, surtout que la météo est pas garantie, hein. Demain, on pourrait avoir mauvais temps. En tout cas, il va pas faire chaud, ça c'est certain. Et surtout les cols en plus, on navigue toujours à 2000 mètres altitude à peu près. Donc ça peut avoir son importance. On sait qu'il y a certains coureurs qui tolèrent plus ou moins bien la haute altitude. On est à chaque fois autour des 2000 mètres d'altitude. Ça peut changer, plus la météo. On sait pas. Même Tadej Pogacar, dans son interview d'après-course, soi-disant qui adore la pluie, il a dit « je préférerais quand même qu'il y ait le soleil ». Donc si même lui s'inquiète pour la météo, attention aux autres.
Il a aussi dit autre chose, puisqu'il a été interrogé, Tadej Pogacar, aujourd'hui, sur la tactique et les choix de Nils Politi hier, critiqué par Thomas Vogler.
On en sait un peu plus d'ailleurs à ce sujet.
Ouais.
Sur l'arrogance éventuellement de l'équipe UAE. Il a dit « l'arrogance c'est une chose, essayer de gagner le Tour de France en est une autre ». Par exemple, hier, Nils Politi, son lieutenant, qui avait cherché, vous savez, à intimider les Movistar qui tentaient d'attaquer, on a essayé de calmer les choses, de contrôler le rythme de la course. On ne cherche pas à être arrogant. On essaie juste de se rendre la course la plus facile possible pour gagner. Certains feraient mieux de se taire. Ça sonnera super arrogant, mais bon.
Oui. Mais ce qu'on a oublié de dire hier aussi.
Ce qu'on n'a pas vu,
c'est que quand Politi s'arrête, revient dans le peloton, ça continue d'attaquer alors que le maillot jaune est arrêté pour
ça, c'est le tabou. Naturel. C'est le tabou suprême. C'est-à-dire que tu n'attaques pas, tu roules pas.
Ça m'est arrivé une fois.
Tu ne relances pas vu la course.
Richard Virand, qui était maillot jaune du Tour, avait gagné la veille à Morzine. J'ai attaqué dans la vallée qui a suivi l'ascension de l'Iseran. Il y avait Bettini qui était équipier du maillot jaune. J'étais encore un jeune coureur. Je me suis fait gronder comme un gamin. Et je peux vous dire que je me suis fait pardonner et je me suis excusé 10 fois. On n'attaque pas le maillot jaune quand il s'est arrêté pisser. C'est une règle. On parle souvent entre nous, hors antenne parfois, de la jeunesse. Mais il y a des codes qu'on ne peut pas changer. Et celui-là en est un. Alors, effectivement, ça peut paraître arrogant. Le geste de Neil Pollitt n'est pas bon. Son humeur, son geste d'humeur. Mais en revanche, l'attitude des jeunes coureurs non plus. Alors, je veux bien entendre chacun sa course. Oui, chacun sa course, mais il y a des choses qu'on ne fait pas.
Ok, alors parlons un peu des enjeux quand même de ces deux étapes des Alpes, et à commencer par la première demain en direction du col de la Louse.
Ça peut être maillot
jaune,
pour beaucoup de la
Louse. Maillot jaune, c'est demain. Vingegaard, s'il n'arrive pas à renverser Pogacar, ce sera terminé. Je pense que demain soir, il pourra se dire ok, je serai deuxième. Mais est-ce qu'il peut vraiment faire quelque chose? On se rappelle, et tu le disais, c'est la légende du col de la Louse, c'est que.
Poggi l'a plié là.
A plié.
Okay. Ah, il va avoir des traces. Hein. Il y a des traceurs mentaux dans cette montée qui sont pas bons, qui sont pas à l'avantage de Poggi. Maintenant, il y a quand même les traceurs
c'est pas physiques. Pas les côtés non plus.
Les traceurs. Oui, voilà. C'est, mais ce jour-là, il aurait pété dans l'autre côté. C'était pareil. Il était à bout. I'm dead. I'm fuck. Il disait dans la radio. Demain, il y a un scénario possible. Soit il est mis à mal par Vingegaard et ça laisse du suspense pour l'étape d'après parce que je vois pas comment il va lui mettre 4 minutes.
Non.
Mais si on en reprend une ou deux. On peut rester dans le suspense. Aujourd'hui, très clairement, sur une montée comme le Mont Ventoux, on a quand même vu encore Tadej Pogacar facile pour contrer les attaques du Danois. Je vois pas comment le Tour peut basculer.
Ouais, je pense pas comment le Tour. Je vois pas non plus comment le Tour peut basculer. Par contre, attention,
au moins laisser un petit
peu de suspense. Attention, les cols de demain et d'après-demain sont pas comme le Mont Ventoux. Le Mont Ventoux, il y avait vent de face tout le final. C'était impossible. Même si Tadej Pogacar avait été un petit peu moins bien, il se serait pas fait décoller par Jonas Vingegaard. Demain, ça peut être différent. Je reviens sur ce que je dis. Moi, je veux voir Visma Lisebike et surtout Jonas Vingegaard me foutre un bordel monstre demain, loin de l'arrivée, peut-être dès la Madeleine, vraiment usé et dès le pied du col de la Lose. On l'a dit, il fait 26 km ce col. Il y a moins de ruptures de pente, il disait Aurélien Paré-Pinte et Clément Berthet, qu'il y avait moins de ruptures de pente. C'est très bien aussi pour Jonas Vingegaard qui va pouvoir se mettre à son rythme. J'aimerais voir Jonas Vingegaard tout tenter demain.
Ok, all in pour demain. En tout cas, il nous a montré hier qu'il avait de meilleures jambes que dans les Pyrénées. Il monte en puissance. Peut-être reste-t-il un tout petit soupçon de suspense.
Justement, même en faisant all in, il va pas perdre sa deuxième place.
Non.
Qui tente, il est encore au-dessus des autres. Qui tente, qu'il y aille, qui nous fasse plaisir.
Autre enjeu, le maillot à poids. Et là, il va falloir jouer serré pour Lenny Martinez, Pierre-Yves. Hein.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de points à aller chercher. On le disait tout à l'heure, 20 points sur le premier sommet, 20 points sur le deuxième et 40 sur le col de la Lose, puisque ça sera doublé. Et au classement, actuellement, c'est très, très serré. Donc, il y a évidemment Lenny Martinez qui est à ex-aequo avec 60 points avec Tadej Pogacar. Mais derrière, Timen Arensman n'est pas très très loin et Jonas Vingegaard non plus, 10-15 points d'écart sur les deux journées à venir. Il faut jouer effectivement serré et tactiquement Lenny Martinez doit faire le bon choix, c'est-à-dire à tout prix Jérôme Pinot se glisser dans l'échappée.
Ah bah, y a pas le choix, demain c'est l'objectif numéro 1 de Lenny, c'est d'être dans l'échappée, espérer que ça parte le plus vite possible pour que ça prenne du temps, le plus de temps possible dans le passage du premier col et ensuite prier pour que la bagarre se déclenche le plus tard possible et espérer que Tadej Pogacar n'arrive pas pour la gagne là-haut. Mais il y a pas que Tadej Pogacar, il y a Jonas Vingegaard, il y a Timen Arensman, il y a Michael Woods. Demain tout est redistribué. C'est le vrai. Maillot à poids, si un coureur fait deux superbes étapes dans les Alpes avec deux chevauchés,
c'est lui
il
qui
peut être maillot à poids
en deux jours. Très bien, bah, j'ai hâte. Moi, j'ai hâte. Hein. Moi, j'ai hâte de voir ça. Hein.
On va aller manger d'abord. On va...
Oui, ah, oui, j'ai hâte de manger surtout.
On va dormir aussi.
Bah, non, un peu moins.
À toi, tu, toi, moins.
Je veux pas dormir. Je vais directement arriver demain, donc au sommet, le col de la Lauze, donc en haut de Courchevel, départ de l'étape midi 20. Le peloton qui abordera le col du Glindon vers 14h10 à 15h20, le col de la Madeleine, et donc aux alentours de 17h15 pour l'arrivée de cette 18e étape. On va se régaler. Jérôme Sillon va nous régaler également. Il arrive tout de suite pour l'after. Salut Jérôme. Il n'est pas là. Bon, eh ben, rendez-vous avec lui dans quelques instants.
Salut Christophe.
Ouais, salut.
Mais oui, il est là. Bien sûr que je suis là. Studio. Comment ça va, Christophe?
Eh ben, écoute, ça va. Je disais que demain on a une étape incroyable et après-demain aussi. Donc, on va se régaler.
Dans les Alpes, ça va être somptueux. Merci. À tout de suite, Christophe.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.